Bonjour à tous, je suis Safia Yad et je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Zino Life. Avant de commencer, j'aimerais partager avec vous cette grande nouvelle, ce truc qui réside à l'intérieur de moi et qui m'excite beaucoup, et qui est le lancement, l'ouverture de ce nouvel espace qui s'appelle Medita. Medita, c'est un espace de méditation auquel vous allez pouvoir adhérer, dans lequel vous allez pouvoir entrer. Et pendant 7 jours, tous les soirs, je vais vous accompagner dans une méditation guidée de 20 à 30 minutes pour vraiment vous permettre de faire de cette pratique millénaire quelque chose de quotidien, quelque chose qui fait partie de votre vie. Je sais à quel point c'est difficile de méditer, je sais à quel point c'est difficile de commencer, je sais à quel point c'est difficile aussi de varier. Et avec Medita, j'ai envie de vous offrir différentes approches, différentes techniques pour que vous puissiez vous nourrir, pour que vous puissiez voir évoluer votre pratique et que vous puissiez ensuite emporter avec vous ce qui résonne le plus. Ça commence le 12 juin et tous les jours du lundi au dimanche à 21h30, on se connectera à cette énergie descendante de l'astre solaire en méditation, tous ensemble. Je vous accompagnerai pour que vous sentiez à quel point s'enraciner, à quel point être présent, à quel point respirer, à quel point ouvrir nous fait du bien et nous permet de terminer la journée de la meilleure façon qui soit. Alors si vous voulez entrer dans Medita, je vous donne rendez-vous en barre d'infos, vous avez tout ce qu'il vous faut et soyez les bienvenus, sentez ce qui est juste pour vous, j'ai hâte de commencer. Aujourd'hui, je reviens avec un podcast où je vais vous parler d'amour de soi. Mais je vais vous en parler depuis l'espace de vos questions. Sur Instagram, je vous ai posé une boîte à questions dans laquelle je vous ai proposé justement de me donner toutes vos interrogations sur ce sujet-là. Et il y en a eu plein, il y en a eu vraiment plein. Mais ce qui m'a le plus touchée, c'est à quel point elles se regroupent. À quel point nos problématiques individuelles, comme toujours, sont liées les unes aux autres. À quel point il est possible de regrouper certaines questions qui finalement sont des cas individuels, mais qui résonnent chez d'autres personnes parce que nous vivons une expérience commune de manière individuelle chacun. Alors je vais plonger dans vos questions et tenter d'y répondre, tenter de mettre la lumière dessus, tenter de vous apporter un vent frais, tenter de vous apporter un éclaircissement et j'espère que ça vous servira. Bienvenue dans ce nouvel épisode. On a Sarah-Lem et Estelle qui nous posent une question chacune qui se relie beaucoup. Celle d'Estelle est « Comment arrêter de se comparer inconsciemment ?» Celle de Sarah-Lem est « Comment garder cet amour de soi lorsque l'on est sans cesse comparé aux autres ?» Elles sont légèrement différentes parce que dans celle de Sarah-Lem, on sent que c'est les autres qui la comparent avec d'autres personnes justement. Et dans celle d'Estelle, on sent que c'est elle qui se compare. Dans tous les cas, il y a cette idée de comparaison, cette idée que l'autre n'est pas simplement un miroir, mais il est une occasion de me sentir différent. Et parfois, se sentir différent, ça fait du mal. Parfois, se sentir différent, ça fait souffrir. Et j'aimerais vous donner simplement un éclaircissement sur ce sujet-là. L'autre, effectivement, nous permet de nous rendre compte de ce que l'on est. Nous permet de nous rendre compte de ce que l'on a, de quelles sont nos aptitudes, quelle est notre vérité, quelles sont nos préférences. Mais l'autre est justement un miroir qui en aucun cas n'est là pour nous faire cheminer vers cette souffrance-là. Quand je regarde l'autre, j'ai l'occasion justement de me rendre compte de qui je suis. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui réellement est excitant, c'est d'apprendre à se connaître soi-même à travers ce que je vois de l'autre. Pas nécessairement ce qu'il dit de moi. Ce qu'il dit de moi, c'est sous son prisme, ça le regarde lui. Mais ce que l'autre me permet de comprendre, c'est ce qui me plaît moi, c'est qui je suis moi, c'est comment j'agis, c'est quelle est ma vérité, quels sont mes goûts, quelles sont mes aptitudes, mes talents ou au contraire les choses que j'aimerais développer. Et c'est ça qui est réellement important. Quand je regarde l'autre et que je m'aperçois qu'il y a des choses que j'adore chez cette personne ou au contraire qu'il y a des choses qui me déplaisent, c'est finalement des choses que j'adore chez moi ou que j'adorerais avoir ou des choses que je n'aime pas chez moi ou que je n'aimerais pas avoir. Finalement, tout est une question de, voilà, sous mon prisme, ça c'est chouette et ça l'est un peu moins. Mais c'est une question de jugement, entre guillemets, relative à moi, relative à ma vérité, à mon exploration, à qui je suis. Ce qui ne veut pas dire que chez l'autre c'est nul ou chez l'autre c'est bien. C'est vraiment mon expression, mon interprétation d'une vérité. Mais qu'est-ce qui se passe quand, inconsciemment ou consciemment, moi-même ou les autres, me font sentir cette comparaison? Quand j'ai la sensation que je me compare ou quand j'ai la sensation que les autres me comparent? Quand ce sont les autres qui nous comparent avec quelqu'un d'autre, et quand nous-mêmes nous nous comparons vis-à-vis de quelqu'un d'autre, la seule réponse, c'est de revenir là, de revenir dans le centre. Le centre, pour chacun, c'est un endroit différent. Pour moi, c'est dans le cœur, pour certains, ça va être dans le ventre, pour certains, ça va être dans le plexus. C'est arrêter d'être dans le mental qui vient créer des messages et de revenir davantage dans ce que je ressens. Et ce que je ressens souvent, ça se passe ici, dans mon corps, j'allais dire, mais entre mon cœur et mon ventre et mon plexus solaire. Alors, quand vous sentez que vous êtes comparé ou que vous vous comparez, j'aimerais vous inviter à faire un exercice en deux temps. Le premier exercice, ça serait déjà, une fois que vous avez pris conscience de ce message de comparaison, de revenir à vous, de prendre une grande inspiration, une grande expiration et de vous autoriser à couper le message qui est arrivé. Que ce soit un message que vous ayez créé, vous, dans votre mental, cette personne est mieux que moi, cette personne a ça de plus, cette personne ci, cette personne ça, ou un message que vous avez reçu de l'extérieur. Oui, mais t'as vu, lui, il est mieux que toi quand même. Oui, mais t'as vu, lui, il a réussi et toi, non. Oui, mais nanana. Ok, je coupe ce message. Parce que ce message a été créé par moi ou par un autre, ce message a été créé et tout comme il a été créé, je peux le détruire. Donc je reviens à moi à travers une grande inspiration, une grande respiration et juste je viens sentir ce qui se passe à l'intérieur. Je viens sentir ce qui se passe et je viens apaiser ce qui se passe en créant un nouveau message, en créant un message de paix, en créant un message d'amour, un message qui dit non, 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 je n'ai pas de raison de me comparer ou d'être comparé à l'autre parce que je suis absolument unique, absolument parfait et c'est tout ce qui compte, c'est que je me sente comme ça, dans cet amour-là pur et honnête qui ne connaît pas la comparaison. C'est un long travail. Alors ça, c'est la première étape. Une fois que j'ai fait ça, je peux rouvrir mes yeux et ou regarder la personne ou repenser à la personne de l'objet de comparaison et la voir davantage avec ce même amour. Regarder cette personne avec qui je me comparais et dire « Waouh, j'adore ce qu'elle fait !» La regarder avec beaucoup d'amour et se rendre compte de toutes ses qualités, de toutes ses aptitudes, mais depuis cet espace-là d'amour qui dit « C'est génial, je suis tellement... » reconnaissant, fier, heureux, ce que vous voulez, de partager l'expérience d'une personne qui a ça, que moi peut-être je n'ai pas encore, ou que je n'ai pas découvert, ou que je n'aurai jamais, peu importe. Je peux aimer des choses chez l'autre que je n'aurai jamais. Et donc, regarder cette personne-là, ou alors même regarder la personne qui a induit le jugement, induit la comparaison, avec cet amour-là, depuis cet espace-là. Mais pour me connecter à cet espace-là, je dois le faire avec moi-même d'abord. Je dois créer cet amour-là. Je dois m'y connecter. Je ne peux pas regarder l'autre avec amour et réellement sentir cet amour si je n'ai pas cuisiné l'amour à l'intérieur de moi. Donc, quand je sens cette comparaison, d'où qu'elle vienne, je coupe le message. Je en crée un autre depuis mon mental et depuis mon ego salvateur. Je me connecte à cette notion d'amour. Et ensuite, je peux le partager, je peux le diffuser dans le champ, sans forcément avoir à y mettre des mots, simplement c'est l'intention. Et ça change tout, ça change absolument tout. On a une femme qui nous demande comment s'aimer alors qu'on ne se sent pas suffisamment aimé ou entouré. On a Lara qui nous dit « Mon amour de moi dépend du regard de mon copain, comment changer ça ?» Et on a Berkania qui nous dit « Je n'arrive plus à avoir d'amour pour moi après avoir été trompée. » Ce que ces femmes nous partagent ici avec beaucoup de vulnérabilité, beaucoup d'authenticité, c'est que l'amour qu'elles se portent à elles-mêmes, donc entre elles et elles-mêmes, dépend de ce qu'une autre personne peut leur apporter. De l'amour, de l'attention, de l'entourage que d'autres peuvent leur porter. Et c'est quelque chose, c'est une espèce de piège dans lequel on peut tous tomber. Je pense qu'on y est même tous tombés de manière très naturelle. Parce que en naissant, en arrivant dans cette vie et dans n'importe quelle vie, nous sommes entourés. La majorité d'entre nous, nous avons des personnes, des adultes qui prennent soin de nous et qui nous apportent de l'amour sans même que l'on ait rien à faire. Donc c'est une vérité pour nous. On reçoit de l'amour sans même que l'on ait besoin de s'aimer soi-même ou sans même que l'on ait besoin de donner de l'amour en face. Par exemple, vous savez, moi, mon fils, ce n'est pas un enfant qui exprime beaucoup ses sentiments. Je sais qu'il nous aime, mais ce n'est pas un enfant qui va nous prendre dans ses bras. Ce n'est pas un enfant qui va faire des bisous. Et au contraire, moi qui suis très bisous, très câlin, il va souvent me dire « Arrête, maman, arrête, arrête. » Et pour autant, je l'aime inconditionnellement. Il doit le savoir jusqu'au plus profond de son être et il grandira comme ça. Mais il y a un moment, il va falloir qu'il comprenne que ce n'est pas parce que je l'aime qu'il s'aime. Que la première chose, c'est qu'il doit s'aimer même si moi je ne suis plus ou même si personne d'autre autour de lui ne l'aime. Ce qui n'arrivera pas. Il n'y a jamais personne qui ne nous aime pas, on est d'accord. Mais c'est réellement les fondations de ce qui nous tient debout, de ce qui nous permet d'être centrés, de ce qui nous permet de vivre bien, en paix, dans le calme, la sérénité, la présence. C'est le fait de se rappeler qu'on peut être dans un environnement vide de personnes, sans aucune relation, ce qui encore une fois n'arrivera jamais, et sentir cet amour pour soi. À aucun moment il est juste de se dire que c'est l'autre qui me donne ma valeur ou c'est l'autre qui me donne comme l'autorisation de m'aimer, c'est l'autre qui vient nourrir cet amour global que je ressens à l'intérieur de moi. Et comment on fait ça? Il y a une chose très intéressante, c'est de se dire que quand je veux vivre dans l'amour de manière générale, eh bien, je dois commencer par le cultiver moi-même. Cultiver moi-même, c'est apprendre à valoriser ce que j'aime chez moi. C'est être avec moi-même, tranquillement, dans le silence, sans distraction, sans bruit, et connecter consciemment à ce que j'aime chez moi. Je pense que je suis une bonne personne, je pense que je suis généreux, j'aime mes talents d'artiste, j'aime mes qualités humaines, j'aime mes qualités d'expression, j'aime comment j'écris, j'aime comment je m'habille, j'aime comment je suis capable de faire du sport. Moi non, vous avez tous des qualités et vous avez tous des choses que vous pouvez valoriser chez vous. C'est commencer à faire ce travail avec vous-même, sans attendre la validation de l'autre. Commencez à vraiment poser votre attention et votre conscience sur ce qui vous rend extraordinaire et exceptionnel. À partir de là, on commence déjà à connecter une certaine forme d'amour parce qu'on conscientise ce qui est bien chez nous. On conscientise ce que l'on valorise chez nous. Et ainsi, on connecte avec un sentiment d'amour, même si ce n'est pas l'amour inconditionnel comme celui que l'on peut sentir pour nos enfants. Ou l'amour passionnel que l'on peut sentir pour un compagnon ou une compagne. Peu importe. On commence par ces petites choses-là qui viennent nous connecter à ça. Ça, c'est la première chose. Et de ça résulte quelque chose de magique. C'est que, à mesure que je travaille cet amour de l'intérieur, que je viens valoriser ce que je suis, qu'ensuite je suis capable de regarder l'autre avec ce même amour, et non plus dans le jugement ou la comparaison, on en revient à la question de tout à l'heure, eh bien, constamment, je vis dans l'amour. Constamment. Donc, j'ai plus ce besoin viscéral que l'autre m'apporte l'amour. Parce que je le vis déjà au quotidien. Au quotidien, je vis déjà dans cette fréquence-là. Je vis déjà cette réalité-là. Parce que c'est un choix conscient d'être dans le jugement de l'autre ou dans le jugement de soi-même. Ou pas. C'est un choix conscient de se rendre compte des choses et de dire, tiens, là, je suis en train de le juger, ça, j'ai plus envie, j'arrête. Tiens, je suis en train de me juger, j'ai plus envie, j'arrête. Je reviens à me regarder, à valoriser ce que j'aime chez moi, je reviens à le regarder, à valoriser ce que j'aime chez lui. Sans qu'il y ait d'hierarchie, sans qu'il y ait de c'est mieux, c'est moins bien. Juste, j'ouvre les yeux sur ce que j'aime et je le conscientise. Et ensuite, naturellement, je vais recevoir de l'attention. Mais comme je ne serai plus depuis un espace de manque ou de carence, je le savourerai. Et je peux en avoir un tout petit peu, comme c'est le cas avec mon enfant, où rarement il me fait un bisou. Mais quand ça arrive, c'est une avalanche, en fait. C'est un tsunami positif. C'est un feu d'artifice pour moi. C'est juste un besito. Ou c'est juste le fait qu'il pose sa tête sur mon épaule. Moi, comme maman un peu poule et maman racine blédarde qui forcément est très expressive dans ses sentiments, ça n'a pas de prix. Parce que simplement, au quotidien, je vis l'amour et je ne m'attends plus à ce que mon enfant me le démontre comme j'aimerais ou je croyais vouloir qui me le démontre. Je l'aime comme ça, j'aime mon compagnon comme ça, et je suis entourée d'hommes qui ne sont pas très expressifs dans leurs sentiments, même si leurs sentiments sont très forts. Alors revenir à soi, valoriser ce que l'on a, valoriser ce que l'on est, regarder l'autre, valoriser ce qu'il est, depuis cet espace d'amour, encore une fois, vivre dans cet amour-là, pour ensuite recevoir avec encore plus d'intensité les fois où je reçois de l'amour de dehors, les fois où je reçois de l'attention, les fois où je suis entourée, les fois où je suis regardée. On a Mélimel qui nous dit « Comment trouver l'équilibre en nous entre l'amour de soi et ne pas se trouver trop égoïste ?» Et en parallèle, on a cette question « Que faire quand on aime voyager seul de temps en temps et qu'on nous traite d'égoïste ?» J'aimerais faire un point clair. Quand c'est quelqu'un qui vient poser un jugement sur vous, vous n'avez qu'une solution, c'est de couper le jugement, de dire « Cela n'a pas de valeur. » Quand l'autre m'apporte son avis sur moi-même parce que je lui ai demandé ou parce qu'on est dans une relation assez intime ou assez proche pour qu'il se sente en confiance, oui, je le reçois. Ce qui ne veut pas dire que c'est une vérité. Mais quand cette question est posée avec le mot « on nous traite d'égoïste », c'est qu'il y a un vrai jugement fort qui est ressenti. Là, je dois couper. Je dois couper et me dire « Ok, mais pourquoi cette personne en est venue à avoir besoin de me traiter d'égoïste ou en tout cas de me partager sa vérité au sujet de mon égoïsme. » Et ça, c'est pour tout. Je te trouve trop ça, je te trouve trop ça. Quel jugement a réellement de la valeur ? Aucun jugement n'a réellement de la valeur. Quand le message qui vient de l'extérieur n'est pas un message qui nous veut du bien ou un message qui nous pousse vers l'avant, alors je dois le recevoir avec beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance, de manière à ce que je sois assez en paix pour dire à l'autre, ou ne rien lui dire d'ailleurs, mais lui dire « Ok, merci, mais ton avis ne va rien changer à ma vérité et à ma réalité. » J'en reviens à la question. Comment s'aimer sans se sentir égoïste ? La notion d'égoïsme, c'est une notion qui est assez erronée aujourd'hui, qu'on peut utiliser à toutes les sauces. À partir du moment où quelqu'un fait quelque chose pour lui, on peut avoir la sensation qu'il est égoïste, ou si je fais quelque chose pour moi, je peux avoir la sensation que je suis égoïste. Il y a quelque chose d'assez sociétal qui nous interdirait presque de faire les choses seules ou de faire les choses pour soi, juste pour son propre intérêt. L'ego, c'est quelque chose de très bien. Et l'égoïsme vient de l'ego, c'est nourrir son ego. Notre ego, c'est une part de nous, ce n'est pas une entité séparée de nous, ça fait vraiment partie de nous. Notre ego a besoin qu'on lui laisse sa place. Tout comme notre mental a besoin qu'on lui laisse sa place, tout comme notre cœur a besoin qu'on lui laisse sa place. C'est comme tout cet écosystème intérieur d'organes que nous avons. Le cœur fonctionne, l'intestin fonctionne, la rate fonctionne, ils fonctionnent tous ensemble et puis ils ont tous leur rôle et ils travaillent tous conjointement. Eh bien, dans l'écosystème plus global de notre être sur la matière et le subtil, c'est la même chose. Je co-crée avec mon ego, je co-crée avec mon mental, je co-crée avec mon âme, je co-crée avec tout ça, avec mon aura, de manière à ce que la réalité que je crée soit celle que je veux vivre. Donc quand je décide de voyager seule parce que réellement c'est un moment qui me plaît, ça me fait du bien, ça me nourrit, ça me recharge, à quel moment je suis égoïste ? Je ne suis pas égoïste, je suis en train de me respecter. Et je suis aussi en train, attention c'est très important ce que je vais vous dire, je suis en train de montrer au monde, de montrer à mon environnement, à mon entourage, que l'on peut faire autrement, que l'on a droit de se mettre en priorité sans oublier les autres. Ce n'est pas parce que je pars une semaine ou 10 jours en retrait de Vipassana ou à Burning Man, où vous voulez, pour mon propre intérêt, que je suis égoïste. Je le fais parce que j'en ai besoin. Une notion qui me vient là, il y a un message qui m'arrive qui dit « Oui, mais il y a quand même des gens qui sont égoïstes. » Ok. Quand même des gens qui ne pensent qu'à eux et qui font tout dans leur intérêt. Je pense que si vous me posez cette question-là, ce n'est pas votre cas. Parce qu'à partir du moment où on se pose cette question-là, c'est que réellement, on a cette remise en question. Du coup, vous n'êtes pas concerné si vous vous posez cette question-là. Okay ? Mais comment je gère les gens, à l'inverse, qui selon moi, réellement agissent de manière égoïste. Eh bien, c'est comme ce que je vous dis depuis le début. J'ai le choix de le gérer depuis l'espace du mental, qui va être parfois en colère, qui va être parfois très structuré et parfois trop rationnel. Ou au contraire, j'ai le choix de venir le descendre un peu plus dans l'espace de mon cœur, l'espace de mon plexus, etc. et de venir communiquer le message avec plus de douceur, plus d'empathie, plus de compréhension, plus de volonté de lien. Je vous prends un exemple que l'on pourrait retrouver. Par exemple, dans un couple, quelqu'un qui est toujours en train de faire plein de choses pour lui et qui du coup ne s'autorise pas ou ne trouve pas le temps ou n'a pas envie, disons les choses comme elles sont, de faire de la place pour l'autre personne, de faire de la place pour la famille s'il y a des enfants, etc. Comment moi, imaginons, je suis l'autre personne, comment moi je vais lui véhiculer ce message-là? Eh bien, je peux le faire depuis l'espace de la colère. J'en ai marre, t'es toujours tout seul, tu penses qu'à toi, t'es toujours toute seule, tu fais toujours tes trucs dans ton coin, tu penses pas à nous, tu nous oublies, t'es égoïste, blablabla. Là, c'est vraiment un truc que je souffre tellement que j'ai besoin d'être en colère et j'ai besoin de le véhiculer comme ça. Dans beaucoup de cas, ça va pas marcher. beaucoup de cas, ça va pas marcher. Au contraire, ça va faire monter la sauce, à moins que la personne en face soit... travaille assez sur elle-même pour se rendre compte que dans les relations humaines, ce que je reçois de l'autre côté, il y a toujours une part de vérité, quelque chose à aller prendre et il faut quand même que je le décèle. Mais dans la majorité des cas, si cette personne a réellement un comportement égoïste, elle ne va pas s'en rendre compte. Alors, peut-être que la meilleure façon, c'est de revenir depuis cet espace-là, plus bas, dans le cœur, dans le ventre, dans le plexus qui dit « Moi, j'aimerais bien partager plus de temps avec toi, ça ne te dit pas ?» J'aimerais bien que l'on puisse créer des choses ensemble, que l'on puisse passer du temps ensemble. Je sais que tu adores être avec tes amis, que tu adores faire tes trucs au travail, que tu adores voyager tout seul, je sais pas. Tout ce que l'autre peut faire seul et qui pour nous est une forme d'égoïsme parce qu'il prend pas en compte l'autre personne. Mais j'aimerais bien, c'est vraiment partir de notre désir à nous, de partir de notre besoin entre guillemets, de ce que l'on voudrait, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous rendrait heureux. Et c'est partager ça, en fait. Dans toute relation humaine, il y a vraiment cette idée de pacifier toujours et de donner le message de la manière la plus tolérante, la plus douce, la plus tendre possible, de manière à ce que notre nature d'amour puisse être entretenue. Parce que l'humain, c'est juste l'amour. L'amour qui parfois se transforme en colère et en peine et en tristesse et en tout ce que vous voulez. Mais au final, son point d'équilibre, son centre, il est dans l'amour. Donc c'est notre décision individuelle d'aller travailler ça et d'aller l'explorer et d'aller l'offrir au monde. J'ai digressé, hein. Mais moi j'aime bien digresser. Parce que je crois que quand les messages nous viennent, il faut les partager et que tout peut pas être figé, fixé, écrit sur un bout de papier et on le lit. En tout cas, c'est pas comme ça que je fonctionne, quoi. Très rapidement, j'aimerais répondre à la dernière question, qui est celle de Camille. J'apprécie la femme que je suis devenue, mais ai encore honte de certaines parts de moi. J'aimerais t'inviter, Camille, et toutes les personnes qui se sentent concernées par cette question, à aller saluer ces parts que tu vois comme étant honteuses. Et pour les saluer, encore une fois, tu vas devoir te retrouver avec toi-même, en silence, fermer les yeux peut-être et aller connecter avec ce que tu n'aimes pas. Peut-être que c'est des parts physiques, peut-être que c'est des parts de personnalité. Mais aller connecter avec ça, c'est-à-dire y penser. Et au lieu d'y apporter cette honte, cette forme de colère, s'y apporter de la tendresse. C'est faire cet exercice-là en silence avec toi-même dans ta pratique. Dire ok, ça j'aime pas, mais je vais quand même y apporter un peu de tendresse. Je t'aime pas beaucoup, mais je vais t'apporter de la tendresse. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on va aller mieux, toi et moi. Je pose ça là, Camille, et à tous ceux pour qui ça résonne. Je vous souhaite d'essayer. Et de toute façon, on le fera dans Medita, parce que c'est un gros dos et que l'on doit le travailler, parce que tous les messages du mental peuvent être hackés, transformés à travers la méditation. Et c'est pour ça que c'est un outil fondamental et merveilleux et tellement puissant et bueno. En tout cas, j'espère que ces quelques réponses vous ont nourri, que ça a pu éclairer votre route d'une certaine manière. Et je vous retrouve très vite pour deux prochaines questions, deux prochains podcasts. Vous avez toutes les informations pour Medita dans la barre d'infos. Ça commence le lundi 12 et d'ici là, je vous embrasse. Ciao!